France Bleu RCFM. France
Bleu. Yeah.
Hal.
Hal qui?
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Toc Toc.
RCFM, 17h-18h.
Toc Toc.
Bonsoir à tous, je suis très heureuse, vraiment très heureuse de vous retrouver en ce lundi de Pâques. Bienvenue dans Toc Toc. À mes côtés ce soir, je ne suis pas seule, nous retrouvons la journaliste de Corse Matin, Alexia Leonelli. Bonsoir Alexia.
Bonsoir.
Comment ça va?
Très bien, et
pas
vous?
Pas trop mangé de chocolat?
Non, j'ai
vous avez
travaillé
été raisonnable
aujourd'hui.
Bon, très bien. À l'honneur ce soir, il est animateur du patrimoine pour la ville d'Ajaccio. Il est féru d'histoire, passionné de Napoléon et incollable sur Rocky Balboa. Mais qui est là ce soir?
C'est Philippe Perfetti.
Bonsoir Philippe et merci
Bonsoir.
D'avoir accepté cette invitation.
Qui est là?
Philippe Perfettini, donc spécialiste, hein, l'un des spécialistes du patrimoine pour la ville d'Ajaccio. Et 2019, une grande année pour Napoléon, puisque nous célébrons ça fait 250 ans qu'il est né, c'est plus facile à dire.
Oui, en effet, ça fait 250 ans qu'il est né et 2019, ce sont les premiers fruits de la remise en valeur de Napoléon à Ajaccio, tant sur le plan des habitants de la ville, hein, la réappropriation du patrimoine, que sur le plan d'une idée de développement économique et les débuts d'un plan pour créer du tourisme d'histoire à Ajaccio, puisque les gens ne viennent pas en Corse et à Ajaccio spécifiquement pour son patrimoine, mais plutôt pour la mer, le soleil, la nature, mais peu pour le patrimoine encore.
Mais finalement, on peut tout de même dire que du côté d'Ajaccio, Napoléon n'a jamais été mis de côté. Dans le reste de la Corse, on peut trouver des gens qui n'aiment pas trop Napoléon, sans doute comme à Ajaccio, mais quand même à Ajaccio, il y a toujours ce culte autour de l'empereur.
Oui, il y a un culte, effectivement, c'est autour de l'empereur. Donc c'est une partie de sa vie qui a duré 10 ans. Il est mort jeune, mais bon, il est pas mort à 10 ans, il est mort à 50. Donc il y a 40 années qui sont passées un peu à la trappe, donc c'est une vue un peu partielle de l'histoire de Napoléon, et une vue partielle qui occulte toute sa période insulaire, c'est-à-dire les 24 premières années de sa vie, à peu près, hein. Même s'il a fait ses études sur le continent, pendant 24 ans, il n'a qu'un objectif, c'est sa place en Corse. Et ça a été très 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 peu étudié et mis en valeur, alors que c'est toute la genèse de Napoléon.
D'ailleurs, en ce moment, la maison Bonaparte rend un petit peu hommage et met en lumière, à travers cette exposition de Playmobil, à cette jeunesse corse, cette enfance corse et ajaccienne de Napoléon.
Absolument, parce que même plus loin que la jeunesse de Napoléon, puisque ça remonte, me semble-t-il, aux origines de la famille en Corse, c'est-à-dire le début du XVIe siècle, jusqu'à ce que Napoléon s'en aille en 1793. Quoi, que ça couvre effectivement toute la partie obscure de l'histoire napoléonienne.
Alors, avant de nous intéresser avec Alexia à votre parcours, à votre biographie, autour de cet exercice un peu narcissique, mais très, très agréable, 2019, donc l'année Napoléon, on peut s'attendre à quoi comme festivité du côté de la cité impériale?
Alors, il y en a pour tous les goûts. C'est découpé en 3 grands morceaux. Il y a le morceau événementiel touristique qui est porté par l'Office intercommunal de tourisme, dont le point d'orgue seront les journées napoléoniennes au mois d'août, bien sûr, mais il y a des événements répartis tout au long de l'année. Hein, ça a commencé au mois de janvier, ça finira au mois de décembre. De l'autre côté, pour la population locale et un tourisme plus ciblé histoire de l'art, il y a les actions portées par le Palais Fèche et la direction des patrimoines de la ville. Donc entre autres les grosses expos du Palais Fèche, dont l'expo d'été sur Mathilde Bonaparte, une des nièces de Napoléon, et des cycles de conférences tout public au Palais Fèche, des animations pour les enfants énormément, parce qu'il faut que la population locale s'imprègne de cette histoire-là. Donc tout le monde va être servi. Ça, c'est les deux premiers plats. Et le troisième grand plat, ce sont les présentations des événements, des aménagements qui ont vocation à être pérennes. Parce que l'événementiel, bon, ben, ça passe. En revanche, on a en chantier des...
La création d'un nouveau musée aussi.
Voilà. Le plus gros chantier, c'est la création d'un nouveau musée dans l'hôtel de ville.
Alors, est-ce qu'il viendra concurrencer la Maison Bonaparte ou non? Ce sera un autre domaine.
Pas
avec...
du tout. Il y a la Maison Bonaparte parle des Bonaparte et de leur rapport avec la Corse, jusqu'à Napoléon III, voire un peu plus loin.
Voilà, la place des Bonaparte et des Ramolines, un petit peu dans la société,
voilà.
La société corse.
Le Palais Fesch, il y a une des plus belles collections de portraits impériaux dans les collections publiques françaises, et il y a la chapelle impériale, les Invalides d'Ajaccio, comme je les appelle moi. Il y a le salon napoléonien au milieu, donc à l'hôtel de ville, qui ne sert plus à grand-chose et qui va être réhabilité pour lui parler de toute l'histoire des Bonaparte depuis le milieu du XVIIIe siècle, donc l'émergence de Carlo Maria Bonaparte, jusqu'à la mort de l'impératrice Eugénie. Donc c'est une présentation succincte, on rentre pas vraiment dans les profondeurs de l'histoire napoléonienne, mais c'est un survol de toute cette épopée qui part d'Ajaccio et qui arrive à donner deux empereurs.
Alors on prend le visiter quand ce musée à l'hôtel de ville dédié à cette histoire napoléonienne? Alors dans moins de 10 ans,
j'espère. Les aléas des chantiers et des marchés publics, ça c'est un peu trop opaque pour moi. Mais en tout cas le
calendrier
projet,
administratif est souvent le temps administratif est souvent compliqué.
Un petit peu. Et le projet sera rendu, le projet architectural et muséographique sera rendu à la fin de l'année 2019. Donc
très
présentation au public de ce que ça
devrait
être.
Donc assez rapidement, on en saura davantage. Alors, tel Sherlock Holmes et le docteur Watson, en compagnie d'Alexia Lionel, nous allons enquêter, un petit peu psychanalyser votre vie, notamment votre enfance, votre adolescence, vos études et votre job d'animateur du patrimoine pour la ville d'Ajaccio. Alors, où avez-vous passé votre enfance? Était-ce une enfance ajaccienne, comme Napoléon?
Oui.
Un point commun, déjà.
Un point commun, d'autant plus que je suis un enfant de la vieille ville. J'y habite toujours, parce que je suis sur la place des Palmiers, pour ceux que ça intéresse. Donc, à 50 mètres de la maison Bonaparte, je suis allé à l'école primaire à Fort-Joli-Comte, qui a été l'école des frères Bonaparte, du cardinal Fesch, de Pozzo-Liborgo, etc., etc. Donc, j'ai baigné très jeune dans atmosphère,
cette ambiance,
sans savoir ce que c'était, bien sûr. Hein. Après, comme tous les adolescents de l'époque, j'ai traîné sur les places de la ville, en particulier au Cazone. Et puis, la révélation, ça a été en faculté, puisque tant bien que mal, j'ai réussi à avoir mon bac. Je suis parti à Aix-en-Provence et je suis tombé sur un prof d'histoire qui était un fan absolu de Napoléon. Il savait d'où je venais. Donc, tous les jours, j'avais droit à des questions auxquelles je ne savais pas répondre. Et j'en ai eu un peu marre d'être ridicule aux yeux de l'amphithéâtre. Et je m'y suis mis comme ça.
Donc voilà, ça vient un petit peu d'une humiliation, entre guillemets, cette passion autour...
Oui, le refus de l'échec. Ouais.
Autour de Napoléon.
Je me demandais d'où ça venait, cette fascination pour Napoléon.
Ouais.
Mais donc, ça s'est développé vraiment à la fac, pas avant.
Oui, la fascination, l'élément déclencheur de l'intérêt pour Napoléon, ça a été cette histoire à la fac. Et puis, quand on se plonge dedans, en plus, ça correspondait à l'époque avec la sortie de la biographie de Napoléon par Max Gallo. Et je lisais ça, c'était excessivement romancé. J'ai dit quand même Napoléon quoi.
Enfin, il a fait des trucs.
c'est assez original. Et ça a commencé comme ça. Et puis plus on étudie, plus on lit cette histoire là, et plus ça ressemble à un conte de fées, à une histoire de super héros complètement irrationnel. On se demande comment ces gens, parce qu'il est pas tout seul, comment ces gens ont fait autant de choses en si peu de temps. Et comment on en parle encore aujourd'hui, puisque Napoléon, c'est l'homme historique sur lequel il y a le plus d'écrits et le plus de documentaires télévisés. Sur le moteur de recherche Google, ça a été une étude faite par une université américaine il y a 4 ou 5 ans, c'est le deuxième personnage le plus recherché après Jésus et avant Mahomet. Donc il est au niveau des grands guides spirituels. Donc comment ça, ça a été possible? Et c'est ça qui m'émerveille en fait, qui attise la passion, compte, qui entretient
voilà,
la passion.
En se rendant compte également de cette proximité, voilà, géographique, sans avoir forcément eu un intérêt conséquent en étant enfant, en ayant grandi un petit peu aux mêmes endroits que Napoléon, voilà, en se rendant compte, voilà, lorsqu'on est à l'extérieur.
C'est du chemin qu'il a parcouru, ouais.
Alors, je vous propose, Philippe Perfettigne, dans un instant, on va retrouver Alexia Lionel qui va évoquer Napoléon et les femmes. Avant cela, Metallica. Alors, nos auditeurs vont sans doute être surpris. Pourquoi du Metallica à cette heure-ci? Ben, puisque c'est l'un des groupes favoris de Philippe Perfettigne.
Je confirme.
Une vieille passion que vous traînez
Oui, à peu près. Ça s'est éveillé au collège, ça. Au collège. Il y avait les cassettes à l'époque. J'ai appris que les cassettes revenaient à la mode. Et oui, le métal, c'est ma première musique, oui.
Aujourd'hui encore, voilà. Tous les jours, vous écoutez du métal.
Ah oui, ça me détend.
Donc voilà, une passion secrète dévoilée. Donc sur l'antenne d'RCFM, l'historien Philippe Perfettigne, fan de Metallica, on écoute.
Life is ours, we live it our way. just I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never care.
Nothing Else Matters, c'est Metallica et c'est le choix, je le précise, hein, de Philippe Perfettigne. Et vous étiez hyper concentré. Hein. Ça vous plaît. Hein.
J'adore.
Je vous propose, Philippe Perfettigne, de retrouver Alexia Leonelli de Corse Matin, notre chroniqueuse. Aujourd'hui, alors vous avez choisi d'évoquer Napoléon, Napoléon et les femmes.
Eh oui. Bon, je sais que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais bon, on
mais
sait jamais.
Mais les auditeurs sont à l'écoute et moi aussi je suis à l'écoute.
Alors, Napoléon attachait plus d'importance à la guerre qu'à l'amour. Décrit comme peu courtois avec les femmes, il manifestait même parfois un certain mépris envers celles qui s'offraient trop rapidement à lui.
D'accord. Donc voilà. Un peu d'exigeant quand même.
Ah,
un
quand
peu,
même, un beaucoup d'exigence.
Un peu d'exigence.
Alors, est-ce que vous savez, Philippe Perfettigne, combien a eu de conquêtes Napoléon?
100 000.
Non, 200. Non. M'a semblé entendre que ça avoisinait les 60, mais le chiffre exact, je ne connais
même,
pas.
Et quand même,
c'est pas mal. Hein.
Comme 60, c'est pas mal. Hein.
58, pour être exact. Enfin, c'est l'historien Frédéric Masson qui lui a attribué dans son film 58 conquêtes. Certaines femmes ont été extrêmement déterminantes lors de certaines grandes décisions prises par Bonaparte. Il manifestait parfois un certain mépris, mais il y a certaines femmes, il les a vraiment aimées. Donc, savez-vous desquelles je parle? Notamment deux maîtresses.
Alors, celle qu'il a vraiment aimée, c'est Joséphine, sa première femme. Après, les maîtresses, il y en a deux qui ont compté. La première, parce que c'est avec elle qu'il a appris qu'il pouvait avoir des enfants, c'est Éléonore de Nuel de la Plaigne.
Exact.
Et la deuxième, son deuxième grand amour, c'est Marie Walewska.
De Pologne.
Avec qui il a eu un enfant aussi.
Oui, c'est il... ça. Il a terminé la chronique.
Non. Mais non, allez, non.
Et d'ailleurs, on peut retrouver des descendants de Napoléon dans
côté,
la branche
Walewska. Oui, absolument.
Exactement. Le premier véritable amour de Napoléon se nommait Caroline du Colombier, dont il dira à Sainte-Hélène que leur relation était restée chaste. Napoléon n'avait alors que 17 ans. La première épouse de Napoléon a été Joséphine de Beauharnais, qui sera le premier véritable amour de l'empereur. Bonaparte fait sa connaissance lors d'un dîner mondain en octobre 1795. Il décide assez vite de se marier. Et Joséphine s'avéra assez vite une épouse infidèle. En plus, elle ne pourra pas lui donner d'enfant. Donc ça se conclut sur un divorce.
Mince.
Vous confirmez ?
Je confirme.
Par la suite, une coalition européenne s'est formée contre la France de Napoléon, ce qui l'a motivé à débuter la campagne de Pologne en 1806. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré Marie Walewska, dont il est tombé fou amoureux, qui est également désignée comme la femme polonaise de Napoléon. Elle lui donnera un fils, Alexandre Walewski, le 4 mai 1810. Elle restera très fidèle à Napoléon jusqu'à son exil pour Sainte-Hélène. Elle mourra assez jeune, à 31 ans en 1817. Les conquêtes de Napoléon, bien nombreuses, n'ont eu que peu d'influence sur l'empereur, de très rares exceptions. Son obsession était d'épouser un ventre royal, je mets bien les guillemets, car celui de Joséphine n'était plus fécond. Alors, Philippe Herfétine, selon vous, est-ce que Napoléon était un homme à femme, ou est-ce que c'est vraiment les femmes qui allaient vers lui
Ou est-ce que c'est une légende un petit peu qui dort
Parce que 58 conquêtes, c'est quand même énorme. Hein.
Non, c'est pas un séducteur. Et même très très maladroit à ce niveau-là. Après, le pouvoir l'a rendu excessivement beau et excessivement désirable. Donc ça se bousculait devant sa porte. Mais il agissait de la même façon avec les courtisanes qu'avec les courtisans. C'est-à-dire, c'est une espèce qu'il déteste.
Il méprisait les courtisans.
Oui. Homme comme femme, peu importe.
Les flatteries, voilà, ça le touchait pas. Ça n'avait pas trop
vraiment,
de prise.
Non. Ce qui avait de la valeur à ses yeux, c'est la capacité qu'avaient certaines personnes à le faire rêver, à le faire douter, comme Joséphine. Et surtout, ce qui le fascine le plus, c'est l'intelligence et la force de travail. C'est ce qui le caractérise le mieux lui-même. Donc, il était particulièrement bien entouré à ce niveau-là. Et tout ce qui touche au médiocre, à la flatterie, comme dans la folie des grandeurs, il peut pas. Hein. Impossible.
Aucune prise sur Aucune. Napoléon. Est-ce qu'il a... Merci Alexia Léonel pour cette brillante chronique. Est-ce qu'il s'est révélé ambitieux très jeune, Napoléon ?
Ambitieux par nécessité. Parce que les...
Par survie, par instinct de survie.
Instinct
un petit
de survie, ils n'ont pas le choix. Je dis ils n'ont pas le choix au pluriel, parce qu'il y a ses frères et ses sœurs qui sont dans le lot, puisqu'ils perdent leur père très rapidement. Le père, qui est la principale source de revenus, meurt alors qu'il a 38 ans.
Charles-Marie,
oui.
Il est jeune.
Il meurt.
Quand on dans le voit sur les photos, on pense qu'il est vieux, mais voilà, on n'imagine pas.
Il meurt très jeune et il laisse une veuve avec 8 enfants. À ce moment-là,
Bouches à nourrir.
Voilà, ça fait beaucoup de bouches à nourrir et il faut trouver un moyen de les nourrir. Et c'est pour ça que Napoléon et son frère aîné Joseph, et celui qui va devenir le cardinal Fesch, rentrent dardard en Corse pour y faire carrière. Et l'ambition, elle naît de cette nécessité. Après, il y a les circonstances politiques de l'époque qui font qu'il y a quelques bouleversements, puisqu'on est en plein cœur de la Révolution française qui a atteint même la Corse, et oui. Et donc, il y a des places à prendre, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont faim. Et ben, la place des Bonaparte, elle n'est pas ici, puisqu'ils vont être exclus de Corse en 1793. Et puis après, on arrive sur le continent une nouvelle fois sans le sou. Et là, il faut tout recommencer. Bon, et là, on recommence à un niveau que personne n'avait atteint jusqu'à présent en étant parti d'aussi loin. Parce qu'ils partent de pas grand-chose, en fait.
Ils partent de loin. Quelque chose que l'on ne sait pas trop, alors bien sûr, mis à part les férus d'histoire comme vous, et il y en a beaucoup d'autres, j'imagine, notamment à Ajaccio, ce que l'on sait un peu moins, c'est que Charles-Marie Bonaparte, le père donc, de Napoléon, s'est battu aux côtés de Pascal Paoli contre la France en 1768 et 69, je crois.
Exactement.
Et on dit que c'est par nécessité, un peu par opportunisme, qu'il a rejoint les rangs de la France. Alors, je ne sais pas si c'est vrai.
Oui, ils étaient avec sa femme aux côtés de Paoli. Quand Paoli s'en va après Ponteno, bien, il faut trouver quelque chose pour survivre, encore une fois. Et ça tombe à pic, puisqu'il y a un nouvel occupant en Corse qui est représenté par le comte de Marbeuf, qui a besoin des élites locales pour asseoir le pouvoir français en Corse. Il tombe sur Charles Bonaparte, qui a, comme d'autres personnes à la même époque, il tombe sur Charles Bonaparte, qui a connu le pouvoir de Pascal Paoli. Charles Bonaparte est un érudit, il parle français, il parle italien, il écrit le latin, et il est très cultivé, et il connaît les rouages de la société insulaire. C'est l'homme qu'il faut pour Marbeuf, qui va le couvrir de gloire et qui va donner aux enfants Bonaparte la possibilité d'aller chercher sur le continent ce qu'ils ne peuvent pas avoir encore, c'est-à-dire une éducation de qualité.
Et dans cette famille, quel a été le rôle de Letizia Ramolli un petit peu, elle, on dit que c'était l'intelligence pratique, c'était elle qui organisait un petit peu le fonctionnement de la famille, et même elle qui avait de l'ambition pour ses enfants.
Elle mène la barque comme une jeune veuve qui a la charge de 8 enfants. Donc c'est une éducation à la maison, parce que elle elle parle mal le français.
Elle n'a pas d'éducation. Elle n'a pas la culture de son mari.
Mais elle a un excessif bon sens et toujours un rapport très proche avec ses racines qu'elle ne perdra jamais, puisqu'elle avait eu ses paroles prophétiques à l'apogée de son fils. Elle avait dit pourvu que ça dure. Mais elle a toujours eu du bon sens. Elle s'est pas laissée emporter par la gloire, contrairement aux autres. Et c'est elle qui tenait la maison, quoi.
Et dans les moments difficiles. Lorsque Napoléon était empereur, elle était où, à Ajaccio?
Non, elle a été à Paris d'abord et puis à Rome ensuite, où elle est partie vivre avec son demi-frère, le cardinal Fesch, et un de ses enfants, Lucien.
Lucien Bonaparte.
Ouais.
Alors, transition maintenant, nous passons du côté Philippe Perfettigne, après avoir évoqué Napoléon.
Bien sûr.
Est-ce que vous avez été un enfant, puis un étudiant ambitieux? Que rêviez-vous de faire? Quel job vouliez-vous exercer? Ou alors vous n'en aviez aucune idée?
J'en avais absolument aucune idée. J'étais, comment on dit, en échec scolaire, très rapide.
Échec
scolaire,
c'est étonnant ça.
Ah si, j'ai redoublé seconde, première et terminale.
Ah ouais.
J'ai eu le bac l'année de mes 21 ans, à la RIS. Hein.
Mais non.
À la RIS, mais après, bon ben voilà, il faut savoir rebondir dans la vie. Maintenant, ça fait une originalité, c'est bien.
Ah, je t'ai imaginé premier de la classe, vraiment. Ah, vous avez un peu ramé quand même au lycée.
Beaucoup, enfin c'est le lycée qui a ramé surtout avec moi, ouais. Ouais.
Et donc là, vous choisissez de partir, de suivre un cursus histoire.
Histoire et langue, parce que c'était les seules matières où j'arrivais à avoir des notes sans travailler. Et donc voilà, j'ai des facilités à ce niveau-là, littérature, langue et histoire. Et donc j'ai décidé de me lancer là-dedans sans avoir d'objectif particulier. Puis c'est l'objectif qui m'a rattrapé.
Donc des études qui ont duré combien d'années à Aix-en-Provence?
5 ans. Ouais.
Vous revenez ensuite à Ajaccio.
Absolument.
Vous trouvez un job.
Absolument.
Quel fut ce job?
C'était guide à l'office de tourisme d'Ajaccio pour éviter le service militaire. C'est dommage pour un fan de Napoléon, mais bon, j'avais perdu assez d'années. Je me dis, bon, maintenant il faut un travail pour pas partir à l'armée, parce que sinon je m'en sortirai plus jamais, quoi.
Donc là, vous mettez tout de même assez rapidement un pied dans ce qui deviendra réellement votre métier aujourd'hui.
Absolument, et un pied d'autant plus facile à mettre que il y avait personne sur le créneau Napoléon. À l'époque, j'avais 26 ans. Il y avait personne. Terrain désert absolu. Dans la place à occuper, le travail à faire, c'était vierge de tout. Voilà, donc allons-y.
Et donc vous avez essayé, comment ça s'est passé, de convaincre un petit peu ceux qui prenaient des décisions, en leur expliquant que voilà, que Napoléon était peut-être un peu mis de côté à Ajaccio, du moins voilà son histoire, son parcours, la famille Bonaparte.
Même pas, ça s'est fait naturellement, le plus naturellement du monde, à force d'en parler, parce que je suis quelqu'un d'assez passionné. Alors la passion, c'est communicatif, semble-t-il, et puis voilà, à force d'en parler, à force de travailler dessus, de le faire savoir, et puis c'est venu naturellement.
Voilà. Une question, Alexia?
Non, moi je voulais juste savoir par rapport, finalement ça vous a bien aidé d'avoir un professeur d'histoire qui vous a un peu humilié.
Absolument.
Je dois dire, est-ce que vous l'avez revu depuis?
Non, mais
j'aimerais... Afin d'échanger.
Nous l'embrassons, si
j'aimerais
nous écoute.
Bien revoir monsieur Jacques Rollin, puisque c'est son nom.
D'accord.
Oui, s'il entend quelque part, oui, j'aimerais bien le revoir, parce que merci. Merci monsieur.
Finalement, vous êtes aussi calé que lui dans la matière.
Ah ben j'espère.
Même
j'espère
davantage.
Je le suis devenu. Non, il était fort, hein. Très très fort.
Aujourd'hui, vous êtes animateur du patrimoine pour la ville d'Ajaccio. On devient comment animateur? On passe des concours?
On passe un concours, effectivement. C'est un concours qui est organisé à la fois par l'État et les collectivités locales, détentrices d'un label qui s'appelle Ville et Pays d'Arrêt d'Histoire, dont la ville d'Ajaccio est titulaire depuis 2013. Et il y a un concours donc qui est ouvert nationalement et qui donne accès à ce titre d'animateur du patrimoine, qui correspond au grade de conservateur du patrimoine.
Pas mal.
Ouais.
Ça,
mais c'est propre à ce poste-là. Je peux pas être, faut le faire ailleurs.
Faut pas être conservateur du Louvre.
Non.
Ah,
non,
il faut passer
non,
un autre.
Non, ça
voilà,
c'est la filière
autre,
de l'État là. Non.
C'est un autre diplôme. On va écouter une chanson que vous adorez.
la chanson de Rocky Balboa.
Oui.
Alors voilà, on ne sait pas trop, on ne comprend pas trop cette passion, hein, voilà, le très cultivé Philippe Perfetti. Vous, vous avez des passions quand même qui surprennent, c'est vrai, Metallica, Rocky Balboa. Chez Rocky, c'est quoi? C'est juste la musique que vous aimez ou c'est aussi le
non,
personnage?
C'est le personnage. Et puis on en revient toujours à, enfin, aux fondamentaux napoléoniens. C'est ben Metallica, ça fait du bruit. Napoléon. et Rocky, c'est l'histoire du tocard qui devient un champion. Il y a pas plus beau comme histoire. Après, on apprécie l'acteur ou pas. On apprécie ou pas les films, mais. La colonne vertébrale de l'histoire, le cassos qui devient une icône, c'est merveilleux.
Mais vous, vous êtes hyper sensible, et moi aussi, hein, hyper sensible à cette histoire de résilience quand même.
Oui.
C'est vrai, cette reconstruction, voilà, la renaissance.
La capacité à
renaître un peu de ses cendres, voilà, c'est ce que dit
Cyril
Nick, hein, voilà, tomber et voilà.
Et se relever à chaque fois. Ouais, c'est beau ça.
Alors une chanson pour illustrer voilà ce concept de résilience, Rocky Balboa, c'est le choix de Philippe Perfetti.
Je peux le dire.
Tout à fait. En plus, on a l'antenne, alors vous pouvez le dire, Alexia. Ok. Rocky Balboa, donc un choix, une passion, hein, un peu désuète, certes, de Philippe Perfetti. Avant de parler de Jean-Paul Sartre, parce que oui, il a d'autres passions, notre invité, il n'écoute pas que Rocky, il aime aussi l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, on va parler de la santé de Napoléon Bonaparte, un sujet, Alexia Leonelli, qui vous tient à cœur ?
N'est-ce pas ? Non, je voulais savoir si Napoléon était
hypochondriaque. Comme vous, un petit peu.
Comme notre chère animatrice Davia.
Bah, moi, je suis beaucoup hypochondriaque. C'est pas un peu, moi, c'est beaucoup.
C'est vrai, elle est au max.
Il était excessivement angoissé. Angoissé à l'idée de tout perdre, et plus il gagne, plus il a peur de perdre, etc. C'est tout un cercle vicieux comme ça, avec la volonté. Il a une angoisse relative à la mort et à la disparition de son œuvre. Donc il a une ambition au fur et à mesure qu'il prend du pouvoir et qu'il arrive à être plus haut que ses contemporains et plus haut que ceux qui l'ont précédé, il dit, mais maintenant, où je vais aller ? Qu'est-ce que je vais faire ?
Ça doit donner le vertige quand même, hein, cette réussite.
Ça a du mal à gérer quand même.
Ben oui.
En plus, on ne connaissait pas la sophrologie à l'époque.
Exactement. Ça devient un petit peu compliqué. Et sa dernière lubie, c'est de devenir immortel et d'écrire sa propre légende une fois qu'il est à Sainte-Hélène. Sa Bible à lui.
Est-ce qu'il a écrit, Napoléon ?
Il a écrit très peu, hormis ses correspondances. Il a eu des écrits de jeunesse, et puis son plus bel écrit, même si c'est pas fait de sa main, c'est les mémoires de son règne qu'il dicte à ses secrétaires à Sainte-Hélène.
Alors, un peu glauque, hein, plusieurs tentatives de suicide, Napoléon.
Absolument.
On le sait pas trop.
Absolument, il est un peu dépressif, en fait. De temps en temps, il a des pics d'euphorie. Et puis quand il y a plus de sérotonine, là, il est hop,
il se fait
un coup de spleen. Hein, ça lui est arrivé en Égypte. En plus, en Égypte, il a appris qu'il était cocu. Alors pauvre de lui.
En plus, loin de chez lui.
Voilà, hein, ça a été la loose totale. Il a tenté de se suicider avant d'abdiquer.
Lui, c'est l'empoisonnement, hein, souvent.
Oui. Il y a plusieurs moments dans sa vie, des phases excessivement basses où il touche le fond. Et bon, il y reste pas longtemps, hein, parce qu'il a cette capacité incroyable de tomber, comme tout le monde, mais de remonter encore plus haut que l'endroit d'où il était tombé la première fois. Donc c'est une carrière en dents de scie, c'est excessivement éprouvant pour le cœur et pour les angoisses. Et d'ailleurs, il est mort de ça. Hein. Angoissé, cancer de l'estomac, apparemment. Non,
mais on peut mourir d'angoisse.
Il est mort d'ennui, et puis quelle vie que la sienne à 200 à l'heure toute la journée pendant des années, et puis du jour au lendemain, on se retrouve exilé sur le rocher de Sainte-Hélène.
Là, vous nous avez fait flipper, Alexia.
Ah, c'est pas ça, merci.
Avec ce cancer de l'estomac. En plus, vous avez un petit reflux, vous. Hein.
Ouais, non,
franchement.
Merci.
Ouais, non, ça...
merci de le dire à l'antenne.
Non, les hyperactifs qui s'arrêtent comme ça, après, c'est pas
vrai. C'est vrai
que
reflux, ça fait un peu dégueu quand on le dit. Alors que c'est rien.
Alors que c'est rien en soi,
mais le mot
c'est
reflux,
vrai que...
on imagine un
c'est
peu.
Dégueu.
Alors que c'est rien, ça se voit pas, c'est transparent. Hein.
Ouais. Non, même nous, on le voit pas, oui, effectivement.
Merci Alexia, merci Philippe Perfettini pour toutes ces précisions.
Merci à vous.
Un peu mélancolique. Nous allons à présent parler du philosophe Jean-Paul Sartre et nous avons trouvé pour vous un extrait de Radioscopie. Il était bien évidemment l'invité de Jacques Chancel. Écoutez ce petit générique assez magnifique.
Radioscopie, Jean-Paul Sartre, Jacques Chancel. Comme Hugo, au soir du 2 décembre, juché sur un tonneau, vous étiez seul, certains jours, à haranguer la foule. Vous étiez, rappelez-vous, devant Billancourt. Beaucoup ont vu là les signes de votre nouvelle jeunesse. Beaucoup qui vous croyaient usé, qui vous croyaient embourgeoisé. Ce que vous êtes, le monde le sait. Philosophe, romancier, critique, journaliste, homme de théâtre et aussi homme politique. Souvent, vous vous plaisez à être inculpé. C'est le philosophe en accusation, comme autrefois le fut Socrate. Jean-Paul Sartre, je suis heureux de vous accueillir pour différentes raisons. Peut-être parce qu'à 16 ans, j'aurais aimé vous rencontrer, parce que vous avez accompagné toute une génération, et surtout parce que nous nous trouvons ici, à 7 heures, quotidiennement au carrefour de toutes les idées et que vous étiez attendu. Vous êtes né à Paris le 21 juin 1905, rue Mignard, dans le 16e. Vous avez 68 ans.
67.
67, pardon. Vos parents appartenaient à la bourgeoisie moyenne. Votre père, polytechnicien, était officier de marine. Il est mort en Cochinchine, vous aviez 8 mois. Ce père, Jean-Paul Sartre, vous a-t-il manqué?
C'est difficile à dire. Je pense que ça a été très important de ne pas avoir de père. Je pense en particulier que un enfant subit toujours l'influence de son père sur le plan des professions, de la propriété, d'une foule de choses que le père a déjà hérité des autres et qui lui font comme un destin. Moi, certainement, je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas été commandé, si vous voulez. Ce qui m'a sans doute donné mon sentiment de la liberté. Donc, je ne peux pas dire que mon père m'ait jamais manqué. Ça a été une photo pour moi dans la chambre de ma mère, et c'est tout.
Ensuite, vous avez eu les sentiments d'un père à votre tour?
Non, je n'ai jamais été vraiment père. Donc, ce côté-là n'existe pour ainsi dire pas pour moi.
Jean-Paul Sartre, vous étiez écrivain déjà à l'âge de 6 ans, puisque si l'on s'en tient aux biographies, vous mettiez un alexandrin, les fables de La Fontaine, et les bulletins vous notent déjà à ce moment, comme très intelligent, mais aussi comme très bavard, très dissipé, très curieux. L'êtes-vous resté? Bavard, dissipé et curieux.
Bavard, je ne sais pas. Peut-être, j'écris trop longuement. Les livres que je fais sont trop longs. Dissipé, sûrement, mais il faut voir ce que ça veut dire. Pour moi, ça veut dire actuellement contestataire. Et curieux, sûrement aussi.
Vous êtes contre toute sagesse?
Oui, parce que la sagesse suppose un citoyen bien établi dans l'État et qui, à ce moment-là, décide de s'adapter au monde. Or, ce citoyen n'existe pas, c'est une fable. Il existe des opprimés, des exploités et des exploiteurs, et je ne vois ni chez les uns ni chez les autres une sagesse qu'on puisse leur enseigner.
Il n'est pas de sagesse exemplaire.
Non, ça ne peut pas exister. Il y en aura peut-être, mais pour l'instant, ça n'existe pas.
France Bleu, RCFM.
Et c'était bien évidemment Jean-Paul Sartre au micro de Jacques Chancel dans Radioscopie. Alors écrivain, prolifique, fondateur et directeur de la revue Les Temps Modernes, il est connu aussi bien pour son œuvre philosophique et littéraire. Et vous êtes fan de Jean-Paul Sartre, et notamment de cet existentialisme qui rejoint un petit peu hein, ce qu'on disait tout à l'heure, ce concept un petit peu de résilience, en disant que voilà, pour résumer, avec de la volonté, ben on peut faire beaucoup de choses.
Oui. Fan absolu de Sartre depuis que j'ai découvert dans une de mes années de lycée Huis clos qui était au programme, mais j'ai eu la chance parce que c'est une matière qui me plaisait en plus de prendre des cours particuliers avec une dame qui était très âgée déjà à l'époque et qui avait été professeure de français au lycée Laetitia, Madame Vielle, qui m'avait expliqué Huis clos en long, en large et en travers, et je suis tombé dedans. Je suis tombé dans Sartre, dans l'existentialisme, dans ces catégories du père angoissé, toujours. Après, je parle un peu de moi aussi, hein, en faisant référence à mes goûts littéraires et musicaux et historiques. Voilà, de trouver des remèdes. D'abord, trouver l'explication aux angoisses. Qu'est-ce qui fait que on est comme ça? Et après, trouver les solutions. C'est merveilleux.
Alors, on en a écouté pas mal. Vous, vos remèdes à l'anxiété, vos remèdes à la mélancolie, quels sont-ils?
L'activité non-stop.
L'hyperactivité.
L'hyperactivité, ouais.
Ne pas avoir le temps de penser.
C'est ça. Pas m'asseoir et après, ce sont des tempéraments. Hein. Je m'assieds. Assis, ça veut dire inactif. Inactif, ça veut dire mort. Bon, je fais un raccourci, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Il est 6h20.
Bonsoir, vous écoutez RCFM.
Faire des choses.
C'est Pâques, et oui.
Faire des choses aussi insignifiantes soient-elles, c'est un synonyme de vie. Donc, je vis.
Donc, vous, l'hyperactivité, l'activité physique.
Oui.
Le sport.
Yes.
La lecture.
Oui.
Tous les jours, vous lisez.
Tous les jours, je lis. Et le travail, être productif. Peu importe l'échelle de productivité, mais faire des choses qui ne me servent pas qu'à moi, mais qui peuvent, j'espère, servir la collectivité. D'où ma passion de Napoléon et l'envie tous les jours de la partager. Après, il y a des gens que ça hérisse, mais c'est pas grave, je m'en fous, je le fais quand même.
Mais cette anxiété, comme chez Alexia un petit peu, c'est un moteur de vie quand même.
Mais c'est...
Ah, c'est ça qui pousse
c'est
à faire des choses.
Ouais. Oui, absolument. Oui, je confirme.
Est-ce qu'elle vous le submerge parfois?
Bien
sûr. Vous arrivez toujours.
Bien sûr, ça a été dur.
Un petit peu.
Ça a été dur à apprivoiser, mais on y arrive avec l'âge et avec l'expérience. On sait ce que c'est, on connaît son chien noir, comme disait Churchill.
Son black dog.
Ouais.
Qui revenait.
Ouais. De temps en temps, il venait au pied du lit, puis après, bon, ça devient un copain.
Mais moi je trouve que c'est toujours hyper intéressant les gens qui parlent, mais c'est vrai qu'ils parlent un petit peu de leurs maux, de leur anxiété, parce qu'en plus c'est quelque chose de totalement invisible et c'est, non, mais c'est vrai.
C'est quelque chose qu'on peut cacher. Hein.
On peut cacher, voilà. Bon, chez vous, Alexa, ça se voit un petit peu, mais chez Philippe.
Les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi cette folle? Elle a des reflux, elle a de l'angoisse. Je prends des fleurs de Bac aussi.
Non, même chez vous, ça se voit pas. Mais c'est vrai, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Hein. Voilà, ces angoisses, qu'elles soient métaphysiques ou simplement physiques, voilà, c'est quelque
vrai.
Chose. C'est surprenant chez vous. On s'imagine, c'est vrai, on vous imagine plutôt sûr de vous.
Complètement.
Je ne suis pas du tout.
Ah, c'est ça qui est touchant. Et c'est touchant, les gens comme vous.
Être sûr de soi, non, quel intérêt. Il faut douter dans la vie.
Vous vous voyez où dans 10 ans?
Dans 10 ans je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question.
Vous n'êtes pas du genre à vous projeter comme ça en disant avec un plan, un petit plan de vie, un plan de carrière, en se disant tiens, dans 10 ans, bon, ça serait bien que...
Non, pas en termes de plan de vie ou plan de carrière, mais en termes du travail que je fais en ce moment au sein de la ville d'Ajaccio. J'aimerais que dans 10 ans, et si possible avant... tous les chantiers soient terminés, tout ce qui touche à la mise en valeur de Napoléon, l'appropriation de Napoléon par la population locale, les plans de développement économique, etc., etc. C'est pas très glamour, hein, raconter comme ça, mais c'est pas grave. Tout ça soit mis en place. Et que ça marche surtout.
Croisons les doigts.
Oui.
Avant de nous quitter, puisqu'à 18h, il y aura le journal présenté par Alexandre Sanguinetti. Juste après, suivra Michael Andréani, comme chaque soir sur RCFM. Je vais vous remercier, mon cher
Merci
Philippe Perfettine. J'ai été très heureuse de partager ce moment en votre compagnie. Nous n'étions pas seuls, puisqu'il y avait Alexia Leonelli de Corse Matin. C'était votre première radio. Et c'était franchement bien.
Merci.
Vous reviendrez si vous le voulez.
Avec plaisir.
Merci Alexia Leonelli. Et on se quitte avec un grand choix musical, hein, signé Philippe Perfettine.
Encore
alors
un.
Vous nous allez parler de Body Count. Je
oui.
ne connaissais pas.
Eh bien, c'est l'occasion.
Ça ressemble, vous traînez cette passion encore depuis 1000 ans?
Oui. C'est tout est né dans les années 80 avec mon éveil à l'adolescence et à des sensations inconnues au niveau auditif. Et c'est ça.
Super, voilà. On écoute Body Count. Merci Philippe Perfettine.
Merci à vous.
Merci Alexia Leonelli.
Merci.
Il y avait Stéphane Casalong qui réalisait cette émission et on se retrouve dans un instant.
Break. I've been talking about this shit for over 20 years, and now you can.